béni soit-il, l'homme de bonne volonté qui, au nom de la charité, se fait protecteur de la classe moyenne. C'est sur ses ondes que la vérité surgira et que l'humeur règnera sur les médisances et futiles colères. Gravel dans le retour. Entre spectacle et gros bon sens.
Bienvenue chez vous à Boulevard 102.1, bienvenue chez nous dans le retour, 16h20, 420. Une belle soirée devant nous pour le baseball au stade Canac. On va aller vous rejoindre le plus tôt possible. On a hâte de prendre une broue avec vous autres.
Moi, ça va être un gin. C'est pas la soirée de gin?
C'est la soirée de gin à 50%. Ben oui! Avec la bouffe à 3$, ça, c'est en tout temps.
Gin et poutine.
Gin et poutine.
Tellement hâte d'en profiter, là.
Tellement classe.
Je vais prendre juste le soda du gin soda, s'il vous plaît.
Je vais prendre un gin soda, pas de gin, extra soda.
Je le prends un gin, s'il vous plaît.
Avec beaucoup de glace.
Ça se dégage complètement ce soir avec un minimum de 9 degrés. Demain, du soleil. Avec un maximum de 24, samedi, alternance soleil-nuage, 60% les probabilités d'averses qui ont été revues à la hausse. Maximum de 22 degrés, on prévoit de la pluie pour dimanche avec un maximum de 19. Ça se passe comment sur les routes, Audrey?
Pas facile. Si vous êtes sur la capitale, direction Est, entre Henri IV et Laurentienne, toujours au rouge. Ouest, c'est entre Bourg-Royal et Laurentienne, surtout Robert Bourassa, direction Nord, c'est dans le coin de Charest. Charest Est, en passant, c'est entre Duplessis et Henri IV, où c'est un peu plus compliqué. Henri IV Sud, à partir de Wilfrid Hamel, vous sentez un certain ralentissement jusqu'à l'entrée des ponts du Plessis Sud de Charest au pont. Pour ce qui est de la rive sud, ça se passe sur la 20 direction ouest entre Monseigneur Bourget et Taniata. Chemin des îles, c'est problématique à la hauteur de la 20 et c'est également au rouge si vous êtes sur Guillaume Couture. Entre Chemin des Îles et Taniata. Dernière affaire, le nouveau secteur qu'on explore ensemble dans les derniers jours dans le coin de Saint-Henri.
Ça va, Dora?
Bon ralentissement. Si vous étiez, mettons-le, ça commence sur la route du président Kennedy et quand ça devient la rue commerciale, donc après le carrefour giratoire, c'est vraiment un gros bloc où c'est hyper au rouge en ce moment, des gens qui tentent de faire des détours, évidemment, et puis ça marche pas bien, bien. Fait que c'est autre chose, 88-971-102, texto.
Quand on parle d'actualité et d'actualité judiciaire, souvent on suit un procès X, Y ou Z et quand le procès est terminé, coupable ou non coupable, c'est là que la switch se ferme, on perd contact avec à peu près tout le monde et particulièrement les victimes. Puis on se pose souvent la question, je veux dire, qu'est-ce qui reste après un processus judiciaire? Est-ce que tu sens de la satisfaction? Est-ce que tu sens de la frustration? Est-ce que c'est un mélange des deux? Il y a des parcours judiciaires qui sont plus longs et plus difficiles que d'autres. Puis c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui parce que notre amie Judith Demel, journaliste judiciaire au Soleil. Bonjour, Judith.
Allô.
Ça va bien?
Ça va bien, toi?
Tu as fait une entrevue avec quelqu'un qui a été violé il y a 30 ans et une partie de sa vie se résume à cette saga judiciaire-là et au fait que pendant une bonne partie de l'après-coup, elle a comme été abandonnée. Là.
Mm-hmm. Ben, en fait, pour elle, tout s'est réglé dans les dernières années, là, à partir de l'année 2022. Puis entre 1994 et 2022, c'était
que ça?
Une vie de peur.
Ben,
une vie à se demander si tous les hommes qu'elle rencontre, est-ce que c'est lui, mon agresseur? Est-ce que, parce qu'elle ne l'a jamais vraiment vu, elle a juste vu ses yeux parce qu'il y avait une cagoule quand il l'a agressé en 1994.
Ça, c'est il y a 30 ans. C'est Sarah Boudreau qu'elle s'appelle?
Oui, elle s'appelle Sarah Boudreau. Juste pour revenir un petit peu sur les faits, en 1994, elle dort chez elle dans son appartement, puis elle avait laissé la porte déverrouillée pour que son conjoint rentre du travail plus tard. Puis dans la nuit, vers 2h du matin, il y a un homme qui entre chez elle, il coupe les fils de téléphone, il prend un couteau, puis il l'a agressé sexuellement, Sarah en la menaçant avec le couteau. Puis ça a été d'une extrême violence, là, très traumatisant. Puis par la suite, bon, Sarah Boudreau s'est réfugiée chez une voisine. Elle est allée à l'hôpital pour faire la trousse médico-légale. Puis elle a participé à l'enquête. Elle a même essayé, bon, d'identifier certains suspects que les policiers lui ont montrés là en photo. Puis ça, malheureusement, ça n'a jamais mené à une arrestation. Puis là, c'est en 2022 avec l'arrestation de Marc-André Grenon.
Oui. Mm-hmm. Oui, oui.
Bon, ça a fait les médias parce que, bon, il y avait des nouvelles, des avancées en analyse génétique avec l'ADN et tout. Puis
lui, qu'on avait réussi à le lier à une histoire de meurtre du côté du Saguenay. Puis justement, à cause de l'ADN, on nous avait raconté l'histoire dans les médias. Il y avait eu une filature quand il est allé au cinéma. Il a fallu qu'on trouve l'ADN de la mère. Puis c'est de même qu'on avait été capable de le lier à de l'ADN qui avait été retrouvé dans le temps sur le lieu.
Exact. Fait que lui aussi, là, je pense que son crime avait été commis, bon, 25 ans plus tôt et même plus, et il avait pu être arrêté finalement. Fait qu'en voyant ça, c'est le conjoint de Sarah Boudreau qui se dit « Hey, peut-être que... » Peut-être même qu'il se demandait si c'était lui son agresseur, parce que les faits étaient...
Similaire.
Il y avait une histoire après ça qu'on a su à Québec d'une fille laissée pour morte après un viol.
Exact, il avait fait plus d'une victime. Lui aussi, c'était pendant la nuit. Lui aussi, c'était très, très agressif. Et donc, il communique avec la SQ. Puis Sarah Boudreau, elle lui dit... appelle. Moi, là, ça va bien présentement. J'oublie tranquillement. Puis elle lit pas ces histoires-là parce qu'elle se tient loin.
Elle se protège.
Exact. Donc là, elle dit, ben écoute, si tu veux vérifier, vas-y. Puis tu m'en redonneras des nouvelles. Puis lui, il appelle. Puis là, c'est là que commence un deuxième cauchemar, en fait. Parce que... Puis elle décrit ça comme un coup de masse en plein visage, là. C'est qu'on lui dit d'abord que, ah, ben non, Madame Boudreau, votre agresseur a été arrêté en 97 puis a été condamné. Puis, ben décidément, il avait oublié de la prévenir.
Quoi?
Donc là, ça la plonge dans une espèce de dépression puis une autre détresse parce qu'elle se dit, OK, la vie de peur que j'ai vécue, finalement, en hypervigilance, c'était pour rien.
Comment ça peut arriver, ça, techniquement?
Ben, puis là, c'est parce que... Là, elle se pose déjà des questions, elle fait déjà des démarches, puis là, on la rappelle. Des semaines plus tard, là, on est rendu en février 2023, puis on lui dit non, finalement, c'était pas lui le suspect. Votre agresseur est toujours pas retrouvé, puis le dossier avait
commencé à stresser.
Exact, le dossier avait été classé résolu par erreur.
Oh mon Dieu.
Fait que là, on est reparti là-dedans, puis tout ça, ça l'a poussé un peu à... C'est ça qui l'a poussé à poursuivre la police de Québec, puis la Ville de Québec et le service de police, parce qu'elle voulait des réponses, mm-hmm. puis elle trouvait que ça n'avait pas de bon sens, il fallait dénoncer, puis elle s'inquiétait pour toutes les autres victimes d'agressions sexuelles.
Mais là, je peux comprendre.
C'est un peu ça qui a démarré le processus. Puis parallèlement à ça, ben l'enquête criminelle a été rouverte par la police de Québec et ont finalement analysé l'ADN du violeur de 1994.
Qu'on
avait depuis le début. Ouais. Ils l'ont passé dans la nouvelle banque de données génétiques. Et puis, il y a eu un match, très rapidement. Puis, ils ont identifié le coupable, Danny Lévesque, qui a été arrêté en décembre 2023. Il a plaidé coupable à l'été 2024. Puis, ce qui arrive ensuite, c'est un peu un film, là, parce que moins d'un an plus tard, on retourne au palais de justice pour l'étape des observations sur la peine. Sarah Boudreau doit parler devant le juge. Elle doit lire une déclaration. Elle doit finalement affronter...
C'est l'impact qu'il y a eu sur elle, ouais.
Ouais, elle doit finalement affronter son agresseur. Elle était prête à le faire. Elle était préparée. Il y avait toute son armée de monde avec elle venue l'épauler. Puis finalement, Danny Lévesque s'est jamais présenté au palais de justice puis a été retrouvé sans vie chez lui.
Circonstanciellement... je ne sais pas comment elle t'a expliqué ça, mais est-ce qu'elle reste avec un vide de cet épisode-là, de dire « Moi, c'était là que je bouclais la boucle, c'était là que je le regardais dans les yeux, ça faisait partie de mon processus de guérison, puis il a réussi à m'enlever ça en plus de m'enlever tout. »
Ce qu'elle m'expliquait, c'est que tout ça s'est passé vite, puis on lui a permis de lire sa déclaration, même s'il n'était pas là, ce que... on n'avait pas besoin de faire parce que quand l'accusé est mort, ben c'est la fin du processus.
Il n'y aura pas de
peine. Il n'y aura pas de peine, il n'y a rien à analyser, mais on lui a quand même permis de le faire pour elle parce que c'était important pour sa guérison. Puis c'est dans les semaines qui ont suivi ça qu'elle a commencé à se questionner qu'est-ce que ça représente pour moi, cette mort-là, dans le fond.
Mm-hmm.
Puis c'est là qu'elle a senti un poids de moins sur ses épaules puis qu'elle a finalement senti qu'elle pouvait commencer à guérir. C'est comme ça qu'elle me le dit. Elle dit, c'est comme si il est enfin sorti de moi, sorti de ma tête.
Puis c'est que plus une ombre qu'elle croise quand elle marche. C'est plus un individu qu'elle pense avoir croisé puis qu'elle
avoir
pas, vu.
Il est même pas en prison. Il va même pas sortir un jour. Il est plus là du tout. Là. Il existe plus.
Mais Dieu merci, elle prend comme ça parce qu'il y a des victimes qui auraient pu le prendre totalement à l'inverse.
C'est propre à chacune.
Mais oui.
Mais elle, pendant 30 ans, ça l'a tellement habité que je pense que là, elle était juste un peu contente que ça soit vraiment fini. Fait que elle a digéré tout ça. Elle avait maintenant un nouvel espace en elle pour justement plus vivre ses émotions. Puis là, arrive, parce que là, la poursuite civile est encore en cours. Mm-hmm.
Contre la ville,
long.
Puis ouais.
Puis là, elle était prête à se battre au début. Elle avait de l'énergie pour ça. Elle se disait, moi, je vais y aller au bout. Là,
ça arrivera plus, une histoire comme ça.
Une fille avec beaucoup de fougue, beaucoup d'énergie pour ça. Puis elle avait, là, c'était allumé en elle. Elle a dit que c'est comme un feu qui l'habitait. Mais là, elle a commencé à guérir, puis il fallait qu'elle se replonge là-dedans encore pour au moins quelques années, parce que ça s'en allait à procès, là, parce que la Ville de Québec contestait la poursuite. Et donc, puis ça a été dur pour elle, mais elle a décidé d'accepter une entente à l'amiable qui a été signée au mois d'avril dernier.
Oui.
Pas parce qu'elle veut abandonner, mais parce qu'il faut qu'elle se choisisse.
Elle a dit, elle t'a dit, je passe le flambeau, je n'abandonne pas. J'ai pas compris le sens de cette phrase-là. Qu'est-ce qu'elle voulait dire?
C'est que pour elle, si elle signait l'entente, au début, elle avait l'impression que c'est comme ça, elle abandonnait la cause. Elle abandonnait aussi toutes les autres victimes avec elle qui sont un petit peu là-dedans. Mais après réflexion, puis après avoir discuté avec tout son entourage, puis avoir baigné dans le processus judiciaire, a dit, je passe le flambeau à la prochaine femme qui va se lever, en fait. La prochaine femme qui va avoir l'énergie pour peut-être mener au bout ces combats-là contre le système de justice pour améliorer le traitement des enquêtes pour agression sexuelle.
Puis peut-être que même le processus qu'elle a fait, même si ça s'est conclu par une entente à l'amiable, puis que ça ne s'est pas rendu devant la justice, peut-être que ça shake suffisamment des institutions pour éviter les faux pas. Fait que tu sais, je le vois comme ça aussi.
Exact.
Il y a peut-être des gens à l'interne qui, eux, vont le reprendre, le flambeau, pour que ça se reproduise plus.
C'est ça, c'est pas de déposer les armes, c'est de les passer à quelqu'un d'autre. Elle a fait son bout. C'est tout ce qu'elle peut offrir pour l'instant, puis vraiment correct.
Une course à relais.
Elle en a donné beaucoup. Puis maintenant, elle est prête à se concentrer sur elle-même puis laisser tout ça derrière. Mais elle veut que son histoire et que son message puissent donner de l'espoir et continuer à vivre.
C'est une femme qui est très forte, puis il y a des textos qui rentrent, puis qui partagent ce sentiment-là, puis qui disent bravo, mais j'essaie de voir le verre peut-être à moitié vide. Le fait qu'il y ait eu une entente à l'amiable, est-ce que ça fait en sorte que la police n'a pas à justifier tous les cafouillages qu'on a fait, ou à un moment donné, on lui a dit... Hey, on l'a, là, ton agresseur, puis il est en prison. Ah, oups, trois semaines plus tard, finalement, on s'est trompé, puis on n'aura pas à expliquer, là. C'est où, là, que ça...
J'ose penser qu'il y a eu des enquêtes internes, je peux pas croire, là.
J'ose penser aussi, puis c'est ça l'affaire avec les ententes à l'amiable, c'est ça, quand les gens plaident coupables, puis il n'y a pas de procès, puis on va pas au bout des choses, puis on pose pas toutes les questions qu'on veut, c'est dommage parce qu'on n'aura pas toutes les réponses. Puis elle est un petit peu liée par une entente de confidentialité aussi. Ça, c'est choquant. C'est la partie qui est tough, mais...
Comprends-moi bien, là. T'sais, je comprends qu'elle veuille débarquer du bateau, là. Elle a passé suffisamment d'années à ruminer tout ça, puis qu'elle veuille se reconstruire, passer à autre chose, puis ainsi de suite. Je comprends ça à 200%. Mais une entente à l'amiable, ça amène cet aspect-là aussi qui est décevant, là.
Oui. Puis c'est pour ça que faut continuer à dénoncer. C'est un peu le message qu'elle dit. Elle dit, gênez-vous pas, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui va aller au bout, puis à un moment donné, puis elle dit, là, ça a changé des choses. Il y a eu des gains. Il y a eu des gens qui ont réfléchi. Puis là-dedans, elle a croisé des gens bienveillants. Là. Elle n'est pas amère de tout ça.
Okay.
Elle est amère d'un système, de certaines techniques qu'elle voulait changer, mais ça se fait petit pas à petit pas, tu sais.
Est-ce qu'une personne qui passe à travers tout ce processus-là parce qu'elle dit « je veux passer le flambeau », elle aurait pu se retrouver en position de dire « hey, le processus judiciaire m'a laissé tomber dans une certaine mesure, ça a été dur, il y a eu des erreurs, il y a eu des bavures, je ne sais pas quoi dire à quelqu'un qui est victime d'agression, tu sais, parce que c'est un parcours qui n'est pas facile. Est-ce que tu sentais qu'à ce niveau-là, elle avait des hésitations à dire « plonger » avec le système de justice?
Elle dit, moi, je peux pas dire à quelqu'un d'y aller là, sans avoir des avertissements. Puis elle disait,
c'est terrible, exemple, de dire ça à du monde.
Mais, puis tu sais, elle était très, très réaliste. Elle dit, tu sais, je vais lui dire d'y aller parce que c'est important, mais il faut qu'elle ait l'énergie.
Qu'elle se prépare.
Faut qu'elle ait une attitude quand même forte. Faut qu'elle soit fonceuse et faut qu'elle soit bien entourée.
Ouais.
Qu'elle ait beaucoup de support, de soutien. Mais c'est faisable, c'est exigeant, c'est difficile, mais ça se fait.
Tu peux pas juste y aller avec de la foi aveugle. Il faut que tu te prépares mentalement peut-être à des déceptions puis à ce que ce soit plus long puis plus dur.
Tout à fait. Ouais. Puis, tu sais, vous me demandez souvent comment je fais pour faire le travail que je fais, puis d'être dans ces histoires malheureuses-là tous les jours. Puis de rencontrer quelqu'un comme Sarah Boudreau, c'est ça qui est beau de mon travail, parce que c'est tellement une femme forte, courageuse.
Puis tu lui permets de raisonner.
C'est admirable, et de donner une voix un petit peu plus forte à ces gens-là, c'est beau.
C'est drôle, hein, parce qu'en lisant ton texte ce matin, je repensais à une conversation qu'on a déjà eue il y a quelques mois ensemble, où tu disais c'est important de trouver les rayons de soleil, même dans les trucs les plus sombres, puis de voir quelqu'un qui est rendu là, qui est capable de se confier, puis de partager que là, je suis rendu soulagé et libéré. J'ai dit, crime, elle a été capable. Je disais, elle a trouvé un rayon de soleil, même dans une histoire comme celle-là.
Puis je suis contente que Sarah Boudreau ait trouvé son rayon de soleil, elle aussi, après toutes ces années-là, parce qu'elle le mérite.
Est-ce que plus souvent qu'autrement, vous perdez contact avec les victimes que vous voyez passer quasiment sur une base quotidienne au palais de justice?
Oui, puis tu sais, tu le vois, là, des victimes qui sont très ouvertes à discuter ou pas ouvertes du tout. Sarah Boudreau avait déjà levé son ordonnance de non-publication sur son identité à la dernière date d'audience. Donc, il y avait ce désir-là chez elle de parler de son histoire et de ne pas rester dans l'ombre. Fait que je savais que la porte était ouverte.
OK.
Mais c'est sûr que, tu sais, quand je vois le règlement, ben je les approche, en fait, pour voir s'ils ont un message à dire, s'il y a quelque chose à faire avec ça, qu'est-ce qu'on retient de ça. Puis c'est à eux, ensuite, de voir s'ils sont prêts à aller de l'avant pour ça. Mais oui, la majorité, on les revoit pas, puis et on pense beaucoup à elles, parce qu'après, le processus judiciaire aussi, c'est le moment pour elles de...
Il y a un processus personnel.
Tu veux plus être sur les projecteurs du tout. Là. Mais le cas de Sarah Boudreau est un cas assez spécial et unique.
À lire si vous ne l'avez pas lu ce matin. Hey, merci beaucoup, Judith.
Merci à vous.
Judith Demel, journaliste judiciaire au Soleil, qui collabore régulièrement avec nous. Lesoleil.com pour aller lire son texte, qui se retrouve encore en une au moment où on se parle. Il est 16h36, 88 971 1021 pour nous rejoindre en studio.
Gravel. Boulevard.